milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comme chaque mois, on parle emploi, comment valoriser ses compétences sur le marché du travail. Nous sommes en compagnie de Farida Akhadiri. Bonjour Farida.
Bonjour Emmanuel.
Vous conseillez nos auditeurs dans leur recherche d'emploi, surtout si ce sont des jeunes diplômés avec pas beaucoup d'expérience professionnelle, ce sont toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Farida Akhadiri, vous êtes consultante internationale en développement personnel. Et on le sait, le développement personnel aujourd'hui, ça aide beaucoup de monde à mieux faire le point sur soi-même. Comment se fait-il qu'entre deux jeunes qui sortent diplômés d'une même école, ben, l'un va mieux se débrouiller que l'autre? Il y a bien des ressorts psychiques, personnels, dans les caractères, hein, comme disent les Américains.
Tout à fait. En fait, le développement personnel, c'est vraiment permettre à la personne de savoir valoriser son savoir-être. Donc, on peut avoir les bonnes compétences, on peut avoir le savoir-faire, mais si on n'a pas le savoir-être derrière, ça va être très difficile de trouver un emploi où on va être épanoui. Donc, ceux qui savent, ceux qui ont la capacité de développer ces qualités, cette attitude, le bon état d'esprit, bah, forcément, ils vont avoir un avantage concurrentiel non négligeable sur le marché du travail.
Think positive, comme disent les Américains. Les voisins, les voisines, vous pouvez en tout cas poser toutes vos questions. Surtout, vous n'attendez pas la fin de l'émission, hein, parce que sinon, c'est raté. Vous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp. Comment valoriser sa formation? Comment parler de son parcours personnel? Ça peut être aussi discuter de sa rémunération, faire les bons choix aussi du secteur professionnel, miser sur les bons employeurs. Le monde du travail est en pleine mutation. Et donc, il faut les bonnes lunettes pour y voir clair. Farida Akhadiri vous écoute et vous conseille. Et on démarre 33 1 84 22 71 71 à composer dès maintenant.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Et tout de suite, nous prenons un premier auditeur au téléphone. Kader est à Ouagadougou, Burkina Faso. Bonjour Kader.
Bonjour à tous.
Kader, vous êtes avec nous, vous avez 33 ans, vous avez un master 2 en langues appliquées au tourisme et aux affaires à l'université de Ouagadougou. Vous avez eu ce diplôme en 2016. Depuis 2016, vous avez donné quelques cours d'anglais dans des écoles et vous avez fait quelques traductions, c'est ça grosso modo?
Oui, c'est ça.
Et qu'est-ce que vous voudriez être, Kader?
En fait, moi, je voudrais être assistant administratif.
Où ça?
Dans une entreprise, une ONG.
Et aujourd'hui, quelles sont les questions que vous vous posez, Kader, alors?
En fait, la question, c'est quoi? J'ai fait, il y a à la base, une formation anglophone. Et en plus de ça, pour me donner plus de chances d'avoir plus d'opportunités sur le marché, je me suis dit pourquoi pas ne pas faire un master à la plus professionnelle. Donc je me suis lancé, j'ai fait le master. Après ça, j'ai fait deux stages, l'un au Ghana et l'autre à Ouagadougou. Bon, après le stage, j'ai postulé, bon, jusqu'à présent, j'ai pas eu de résultats. J'ai fait quelques entretiens d'embauche. Bon. Ça n'a pas abouti. Puis on me dit que bon.
Mais où ça, des entretiens d'embauche, où ça? Dans des entreprises, des ONG?
Oui, dans une entreprise. Oui, bon.
Dans quel secteur, Kader?
Bon, là, mon premier entretien d'embauche, c'était dans une société minière, en fait.
Oui.
Oui, où on voulait un poste de supervisor. Voilà, supervisor. Management supervisor qui nécessitait des compétences en anglais, en fait. Bon, après cela, bon, j'ai pas été rappelé. Voilà, et puis j'ai eu à postuler des candidatures spontanées, voilà, de répondre à des offres d'emploi et jusque-là.
Et vous n'êtes pas contacté quand vous faites des offres spontanées?
Non, pas du tout.
Est-ce que vous savez, dans cette entreprise minière, pourquoi on n'a pas préféré votre parcours, Kader? Qu'est-ce qu'on vous a dit?
En fait, bon, on ne m'a pas donné envie, je ne sais pas pourquoi.
Mais vous nous avez dit au Standard que finalement, vous avez le sentiment qu'un recruteur se dit, certes, vous avez une formation en anglais, mais qu'il se demande si vous savez faire autre chose que l'anglais.
Oui, oui. En fait, souvent, c'est ce qui me revient plus. Quand je demande à certaines personnes de me donner un coup de pouce, me dit c'est en fait, mon CV, est, bon, ma formation est trop vague ou c'est trop polyvalente. On ne sait pas où, en fait, où me placer.
Tout à fait.
Farida Kadiri. Voilà. Vous avez Farida, elle a votre CV hein, sous les yeux. Il tient sur une page.
Voilà.
Il est clair.
Mais tout de suite, pour rebondir, effectivement, vous devez vraiment prendre conscience de la problématique du recruteur. L'anglais, c'est un atout, c'est indispensable, mais ce n'est pas la compétence première, en fait, qu'on va rechercher. Donc, c'est vraiment vous dire, même en tant qu'administratif, assistant administratif, c'est ce que vous souhaitez faire, mais... Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous allez apporter? Parce qu'ils vont d'abord vous recruter par rapport à ça. Et maintenant, effectivement, si vous souhaitez travailler soit dans une entreprise anglophone ou une entreprise qui a une exposition internationale, et là, l'anglais, maintenant, va être une vraie valeur ajoutée parce que bah, vous montrez que vous avez des bases solides, d'accord? Mais vous devez vraiment avoir une compétence de base. Et c'est ce qui manque un petit peu dans votre CV. En fait, on n'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, imaginez, une personne veut vous aider, elle veut vous recommander, mais si vous ne l'aidez pas à vous aider, elle ne peut pas vous aider, en fait.
Mais attendez, Kader, il détaille quand même bien ce qu'il a fait. Il a fait un stage dans un hôtel au Ghana. Il détaille bien en 4 points ce qu'il a fait pendant son stage, quand même. Prospection.
Alors, par exemple, moi, je lis son accroche, hein, parce que vous allez voir, un recruteur, il reçoit le CV, il n'a pas nécessairement le temps de rentrer dans le détail, donc il va voir les grosses accroches. Donc, vous avez mis assistant administratif, administrateur bilingue, je désire intégrer une équipe dynamique, promouvoir les produits ou services de l'entreprise et travailler en partenariat avec les institutions, etc. Mais c'est trop vague, en fait, parce que promouvoir les produits, vous souhaitez être commercial. D'accord ? Donc, il faut pouvoir être beaucoup plus spécifique en termes de valeur ajoutée que vous souhaitez apporter à l'entreprise. Donc, moi, imaginons, je vous pose la question, Kader, nous sommes en entretien, vous avez répondu à une offre d'assistant administratif et je vous pose la question, voilà, qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise ? Qu'est-ce que vous me répondez ?
Je dirais que, en fait, ma formation m'a appris à cerner tout ce qui est la gestion administrative. Oui, après, en partant de mes stages au Ghana et à Ouagadougou, j'ai eu à cerner tout le contour du boulot. J'ai eu à...
Notamment l'amélioration des services dans l'hôtel où vous avez travaillé, par exemple. Hein.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc, vous voyez, Kader, donc là, en quelques secondes, vous n'êtes pas clair, en fait. Donc, ça doit être vraiment clair dans votre tête et que vous, au lieu d'être généraliste, c'est vraiment dire, ben voilà, quand j'ai été assistant administratif à l'hôtel, voilà les compétences qui m'ont été confiées, voilà quelles étaient les attentes, voilà quels résultats j'ai obtenus, les difficultés que j'ai rencontrées, comment je les ai... surmonter. Il faut que ce soit vraiment succinct parce qu'en fait, quand vous prenez déjà 2 minutes et vous perdez, bah, qu'est-ce qui se passe en fait ? Le recruteur, il pense déjà à autre chose en fait. Ou il va chercher maintenant les raisons de ne pas vous recruter. Vous devez vous rappeler que vous êtes en compétition avec d'autres candidats. Vous n'êtes pas le seul. Ils reçoivent énormément de demandes. Donc, on va rechercher... Comment on peut disqualifier la personne? Et donc, si on a l'impression que vous ne maîtrisez pas vous-même ce que vous avez fait et ce que vous pouvez apporter... Bah, on se pose des questions.
D'accord. Ça, c'est une question d'entraînement, hein, finalement, Farida.
Il faut pratiquer.
Bah... S'entraîner avec un interlocuteur.
Bah, c'est ça le rôle, en fait. C'est vraiment...
Raconter ce qu'on a fait, ce qu'on
histoire,
a et comment on a
valorisé son CV
à l'entreprise dans laquelle on a fait des stages. Qu'est-ce qu'on a apporté à l'entreprise?
Aujourd'hui, malheureusement, réussir ses recrutements, c'est d'abord une question de marketing. Est-ce que vous savez vous positionner? Est-ce que vous savez vous valoriser? Est-ce que vous savez donner envie qu'on vous recrute?
Kader, est-ce que ça vous a aidé, ça, de vraiment de repenser votre expérience au Ghana, hein, puisque c'est une expérience dans un pays anglophone, c'est ce que vous pouvez montrer de mieux sur votre CV, de repenser complètement la façon dont vous allez en parler.
Il n'y a pas de souci, je comprends.
Très bien, on vous souhaite une bonne journée, Kader, et merci pour votre question qui est utile à tous. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On est avec Farida Akadiri. Brice est en ligne avec nous de Douala. Bonjour Brice.
Et bonjour Camilla.
Brice, alors c'est Farida hein, qui est à mes côtés. Vous êtes au Cameroun, vous avez un master 1 en biochimie que vous avez obtenu en 2014 à l'université de Douala. Racontez-nous un peu votre parcours et votre problème.
Ok, bon, moi c'est mon Brice Legrand depuis au Cameroun. Mmh. Comme vous avez bien dit, j'ai un master 1 en biochimie en 2014.
Oui, et on vous écoute.
Après le master 1. Et après le master 1, j'ai eu un entretien chez l'Université du Cameroun en tant que délégué médical. Et cela n'a pas... je n'ai pas eu l'embauche, quoi.
Mais vous êtes resté quand même combien de temps chez Nestlé Cameroun?
J'ai fait 30 mois chez Nestlé Cameroun. Uh-huh. 30 mois en tant qu'intérimaire.
Oui.
Oui, durant ce parcours, j'ai travaillé dans 3 départements. Principalement la production, la logistique et la qualité. Oui. Et par la suite, le contrat s'est arrêté, quoi. C'était un travail, un contrat déterminé.
Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'est terminé? Vous remplaciez quelqu'un qui était en congé ou est-ce que finalement ces 30 mois n'ont pas été convaincants pour l'employeur?
Non, je suis venu là comme un intérimaire. Une sous-traitance. Elle faisait forcément le venant du contrat.
D'accord, c'était par le biais d'une entreprise sous-traitante.
Oui.
Et alors finalement aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, Brice? Quelles sont les questions que vous vous posez?
Bon, ma première préoccupation, c'est est-ce que la pluridisciplinarité, j'aimerais dire avoir plusieurs compétences, est une entrave pour la quête de l'emploi. Puisque chez Nestlé, j'ai eu 3 départements où j'ai travaillé parfaitement, mais à la fin, jusqu'à aujourd'hui, j'essaye de postuler dans différentes entreprises et je ne parviens pas à déboucher un entretien.
Ouais. Qu'est-ce qui cloche dans le CV de Brice? Parce que là, on ne peut pas dire qu'il n'a pas d'expérience quand même. 30 mois dans une multinationale, dans 3 départements, production, logistique, qualité. Alors, c'est quoi le problème?
Alors, Brice, moi, je vous poserai la question. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, en fait? Parce que c'est déjà ça. Et en fonction du domaine dans lequel vous avez envie de vous spécialiser, vous allez mettre en valeur et mettre le focus sur ce domaine-là, en fait. Donc comme ça, oui, vous allez parler de vos autres expériences, mais il faut vraiment mettre en valeur. Donc quand vous avez marqué justement objectif professionnel, mettre en pratique mes compétences et connaissances acquises, etc., bon, bah, c'est trop vague, en fait. Dans quel domaine est-ce que vous avez envie de continuer dans la qualité? Est-ce que vous avez plutôt envie de vous focaliser sur la logistique? C'est à vous de choisir, en fait. Et maintenant, vous allez répondre aux offres d'emploi qui correspondent à ce que vous avez envie de faire. Donc, est-ce que vous avez vous-même choisi ou c'est un petit peu au petit bonheur la chance, vous envoyez votre CV un peu partout en espérant que quelqu'un choisisse à votre place si vous devez être dans la qualité ou la logistique?
Ouais. En même temps, hein, pour...
Non, notamment, puisque j'ai fait un an et demi au département de qualité et ça m'a plu. J'aimerais bien me lancer dans la qualité.
D'accord. Ah, c'est la qualité que vous voulez. D'accord.
Très bien. Donc, en plus, c'est ce qui apparaît en premier sur votre CV. Donc maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qui vous empêche maintenant de trouver des emplois dans le domaine de la qualité? Quels sont les principaux défis que vous rencontrez en ce moment?
Bon, les principaux défis que nous rencontrons, c'est déjà pour postuler les offres, au niveau des offres. Nous avons les offres, mais on postule, nous n'avons pas déjà la proposition déjà de l'emploi, déjà pour commencer, d'embauche.
Vous voulez dire qu'il y a très peu d'offres dans ce domaine-là?
Oui, allô?
Oui, Brice, vous voulez dire qu'il y a très peu d'offres dans le domaine de la gestion de la qualité?
Non, je n'ai pas dit qu'il y a des offres, mais quand nous postulons, nous n'avons pas de retour positif.
Et est-ce que vous cherchez aussi à contacter des petites et moyennes entreprises?
C'est même le cas.
D'accord.
Donc, vous devez vous rendre compte de deux choses. Si vous n'êtes pas rappelé par une entreprise, d'accord, donc soit effectivement ils ont trouvé un autre candidat, et donc ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment sorti du lot ou votre CV n'a pas d'éléments distinctifs, en fait. D'accord, donc premier élément. Et après, maintenant, c'est de voir comment aussi vous pouvez diversifier, parce que j'ai envie de dire, la méthode passive, c'est il y a une offre d'emploi et puis on postule. Mais qu'est-ce que vous mettez en place aussi comme stratégie pour vous faire plutôt des candidatures spontanées, identifier les entreprises qui vous intéressent et mettre vraiment en place un plan stratégique pour vous positionner en fait par rapport à ces entreprises-là? Est-ce que vous avez fait des candidatures spontanées sur la qualité?
Brice, notamment, est-ce que vous avez, par exemple, ciblé des entreprises que vous connaissez de réputation et dont vous savez qu'il y aurait un vrai besoin d'améliorer la gestion de la qualité?
Effectivement, déjà dans mon agenda, j'ai pris la peine de faire une liste des entreprises auxquelles je passe le temps à checker sur Internet les différentes informations concernant les offres, puisque nous avons les sites au Cameroun, qui concerne les différentes offres des entreprises. Et par la suite, j'essaie de modifier le CV selon le besoin adapté ouais. à l'offre.
C'est ça. Et est-ce que ça, c'est bien de modifier son CV en fonction de l'entreprise?
Il faut adapter,
oui.
Bien sûr.
Donc, il faudrait qu'on ait plusieurs CV.
Il faudrait qu'il ait plusieurs CV. Mmh. Donc, imaginons, par exemple, il aurait répondu, aujourd'hui, que ce soit la qualité, logistique, s'il n'a pas de préférence, s'il postule sur des postes plus de logistique, ça va être mettre l'accent sur l'aspect logistique dans son CV, dans ses références, et inversement. C'est vraiment important, parce que sinon, en fait, le recruteur a l'impression, vous n'avez même pas pris le temps de personnaliser ça pour lui. Pourquoi lui va faire l'effort?
Brice, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez encore une question?
Oui, j'ai une question.
Oui, allez-y, Brice.
Ma question demeure, est-ce que la qualité de mon CV, au vu de l'aspect que vous êtes, porte à ses valeurs d'un CV requis, d'un standard de CV?
Alors, c'est un CV sur deux pages, qu'il a choisi, Brice.
Donc, ce format-là, c'est vraiment vous dire... idéalement faites sur une page parce que vous êtes encore jeune diplômé, enfin vous avez quelques mois d'expérience, mais ça ne justifie pas de faire un CV sur deux pages. Pourquoi sur une page? Pour que ce soit facile, c'est visuel en fait. Donc on doit tout de suite voir les informations importantes, savoir ce que vous recherchez, savoir ce que vous avez fait. D'accord? Donc comme ça, donc même en termes de qualité...
Ça veut dire qu'il y a des choses inutiles sur ces deux pages?
Oui, même sur la partie qualité. Donc c'est bien parce qu'il a détaillé énormément de choses, mais c'est plutôt... Mais du coup, en fait, on n'arrive pas à savoir quels sont les éléments majeurs. Et ce qui manquerait aussi, c'est en termes de résultats, puisqu'on parle sur des mesures de qualité. Donc c'est de dire, imaginons, vous étiez au contrôle qualité, il y avait, 10% de choses qui ne fonctionnaient pas, et depuis que vous êtes arrivé, c'est passé de 10% à 5%. On a besoin d'avoir des éléments quantitatifs de résultats, parce que c'est ça, au final, une entreprise, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut vous recruter, mais pour booster sa performance, Si un autre candidat, il a un CV similaire, où il a peut-être moins d'expérience, mais on voit tout de suite que c'est quelqu'un de productif, de performant, qu'est-ce qui se passe en fait? Votre CV passe à la trappe et on va prendre une autre personne en fait. Parce que tout de suite, on voit qu'elle est orientée performance, productivité, efficacité, résultat.
Quand il s'agit d'un contrat ponctuel, comme c'était le cas pour Brice de 30 mois, est-ce que ça peut être bien de mettre, les objectifs du contrat, c'était ça, et voilà à quoi on est arrivé au bout de ces 30 mois. Bien évidemment,
on a besoin de savoir... Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord une question de marketing. Vous devez montrer que vous êtes performant. Si vous êtes performant, vous suscitez la curiosité et on a envie maintenant de vous recevoir en entretien.
Merci beaucoup Brice, on vous souhaite bonne chance, très très bonne journée à Douala et merci de nous avoir appelés. Vous allez revoir un peu le CV, ça va marcher. Merci à vous Brice.
C'est moi qui vous remercie également.
Très bonne journée. Vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Vous pouvez poster des CV bien évidemment et surtout bien préparer ce que vous voulez faire, être bien au clair dans votre tête pour poser les questions les plus efficaces possibles à Farida Akadiri. On revient juste après Elevate. So different, but the thing I want is no different.
from the thing I always wanted is no different. I want from Nairobi to be elevated, for my people doing their thing to be hella paid. I want for the music to be celebrated, for my people doing their thing to be hella great. I don't make excuses, I don't talk about it, I just go about it, I just be about it. What you gonna do about it? You just hear about it, you just read about it, you just be the people that would ever always be the last to know about it. And even though I keep making 100 mistakes, way up I feel blessed and I'm grateful. I stay the cause, God is faithful, yeah. We are ripe on the scene, we show them. Me no matter, we don't make play, we come to show them. Me no matter, we are ripe on the scene, we show them. Me no matter, we don't make play, we come to show them.
Vous écoutez bien 7 milliards de voisins, on est sur RFI, en direct, en compagnie de Farida Akhadiri, consultante internationale en développement personnel, qui se met au service des jeunes diplômés ou de ceux un peu plus expérimentés, qui vous posent des questions, Farida. Ils envoient généralement leur CV, ils nous expliquent ce qu'ils veulent faire et surtout leurs difficultés pour décrocher un job, voire même parfois décrocher un entretien, et c'est bien ça tout le problème. Vous nous appelez les voisins, les voisines au 33 1 84 22 71 71 et on essaye de comprendre ce qui cloche dans votre parcours pour que vous n'arriviez pas à faire exactement ce que vous voulez ou tout simplement à trouver un emploi. Mais Farida, vous le disiez juste avant la chanson, bien sûr que les candidats aujourd'hui sont pragmatiques et il y a tellement peu de boulot par rapport au nombre de candidats qu'on essaye de répondre un peu au tout venant. Et finalement, vous leur dites, ben non, il faut mieux cibler ce qu'on veut faire. Ça sera finalement plus payant. Mais c'est pas facile de tenir ce raisonnement-là quand on est dans une telle pénurie d'emplois pour la jeunesse sur le continent africain. Il faut l'admettre quand même, Farida.
Oui, tout à fait. Et donc, mais en même temps, c'est vraiment parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que le risque, c'est de se retrouver dans un emploi où finalement on n'est pas épanoui, où on est surmené. Et finalement, en fait, c'est juste retarder le problème. Donc parfois, c'est plutôt, et c'est pour ça que cette émission est importante, c'est se dire comment on prépare son avenir professionnel. Et quand on met les bonnes étapes en place, les choses se mettent en place. Et c'est vraiment ça. Donc on leur donne des conseils bien spécifiques, à eux de les mettre en application.
Alors, c'est vraiment à vous, les voisins, les voisines qui écoutez l'émission, de prendre des notes. Hein, bien évidemment, vous pouvez aussi réécouter l'émission en podcast sur l'appli RFI Pure Radio, sur la page 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. Et on vous donne la parole au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Julia, vous êtes à Kinshasa.
Bonjour.
Julia, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes journaliste et d'ailleurs vous avez été sélectionnée pour la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Vous nous avez envoyé un CV, vous êtes diplômée en journalisme et vous êtes en deuxième année de licence communication sociale à l'IFACIC, c'est l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Ça dépend de l'UNIKIN ou pas, Julia?
C'est pas vraiment comme l'UNIKIN. IFACIC est vraiment un peu calme. C'est une école vraiment qui forme des journalistes.
Alors, vous avez déjà travaillé comme journaliste à la radio. Vous êtes collaboratrice sur une chaîne de télévision généraliste. Vous avez un vrai problème, je dirais, également dans votre personnalité, dans votre façon de vous propulser finalement vous-même, Julia. Racontez-nous.
En fait, j'ai une frousse. Je ne parviens pas à affronter certaines choses. J'ai des rêves. J'ai besoin de créer ma radio, ma propre radio, mais je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas qui aborder pour m'aider. Je suis encore jeune, 23 ans. Je ne sais pas comment y arriver. Et puis, des fois, je ne sais pas parler aux gens que j'ai besoin de réaliser telle chose. Je suis bloquée en moi.
Vous êtes bloquée. Parlez-nous de cette peur que vous avez, que vous appelez de la frousse.
En fait, cette frousse-là est du fait que je ne parviens pas à parler aux gens. C'est que j'ai réellement envie de faire. Vous voyez? Et puis, je ne sais pas qui pourra m'aider. Je ne vois personne. J'ai honte. Peut-être qu'on dirait que je suis trop petite avec ces rêves-là, ça ne correspond pas avec mon âge. Je dois laisser tomber. Bon, c'est ça, en fait. Je n'ai personne pour m'aider. Je me dis, avec ces grands rêves, comment ferais-je?
Alors, moi, j'ai d'abord une première question, Julia. Quand vous parlez de votre peur, de votre frousse, c'est par rapport au fait de créer votre propre projet, de lancer votre propre radio, ou c'est également pour trouver un emploi?
C'est pour créer ma propre radio. Je ne rêve pas de travailler chez les autres.
D'accord. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui vous motive à créer votre entreprise dès maintenant? Puisque justement, vous l'avez dit, vous êtes jeune, vous n'avez pas encore tellement d'expérience et créer sa propre radio, c'est quand même ambitieux. Mais si vous-même, vous n'avez pas travaillé dans une radio, si vous ne maîtrisez pas tous les rouages, comment vous allez pouvoir réussir ça?
En fait, je me dis que je suis déjà capable de monter une radio parce que c'est depuis 19 ans que j'ai commencé ce métier. Alors, j'ai un peu d'expérience. Je me dis, en tout cas, je suis capable de monter une radio parce que j'ai eu aussi à diriger certaines radios dans une de mes provinces. Alors, je me disais que je suis bien placée aussi, moi, pour créer ma propre radio.
Très bien. Donc, imaginons, je peux vous aider. De quoi vous avez besoin maintenant pour créer votre radio?
Par où commencer? Parce que créer une radio, vous allez gérer aussi les gens. Il faut savoir être leader.
D'accord. Tout donc, attendez. Faisons les choses étape par étape. Parce que c'est ça, en fait.
Oui.
Si vous n'êtes pas clair sur ce dont vous avez besoin, les gens ne peuvent pas vous aider. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de positionnement. Donc, imaginons aujourd'hui, je peux vous aider. Comment je peux vous aider à créer votre radio?
Comment est-ce que je peux procéder alors?
Donc, vous n'avez pas encore réfléchi. Donc là, c'est un rêve, ce n'est pas un vrai projet. Et donc, c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est pour ça que vous avez la frousse, en fait. C'est qu'en fait, c'est encore à l'état de rêve. Donc, est-ce que vous avez pris le temps de vous faire un business plan, de poser le projet? OK, pour créer une radio, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de recruter tant de personnes, d'avoir ça, etc. De vous renseigner, en fait, sur comment fonctionne une radio. Parce que sinon, les gens ne vont pas vous aider, mais pas parce que vous êtes jeune, mais parce qu'en fait, votre projet, il n'est pas encore correctement ficelé. Donc, et c'est ça, travaillant sur votre projet, ça va vous donner la confiance en vous. Et maintenant, vous allez pouvoir aller démarcher les gens avec beaucoup plus de confiance en vous et cette frousse va disparaître.
Oui, concrètement, j'ai même un bloc-notes où j'ai tout écrit. Qu'est-ce que j'ai besoin pour créer une radio? Comment commencer? Comment procéder? J'ai tout mis sur papier. C'est que j'aurais besoin dans la radio, par exemple le matériel, qui travaille avec qui, ça sera où est-ce que je pourrais implanter cette radio.
Okay, donc,
tout ça là, je l'ai déjà mis sur écrit et puis je ne sais pas quoi faire.
D'accord. Donc quel type de radio déjà vous souhaitez créer?
C'est une radio communautaire.
D'accord, mais très bien. Mais quel type d'information vous partagez sur cette radio?
En fait, j'aimerais plus me baser sur les droits. Droit à la santé, droit des personnes avec handicap, droit à l'alimentation, d'accord, tout ce qui concerne les droits.
Très bien. Et donc, en termes de programmation, qu'est-ce que vous avez imaginé? Comment ça fonctionne, en fait? Quelles sont les émissions? Comment vous identifiez les personnes qui vont intervenir, les journalistes avec qui vous allez travailler?
En fait... Pour les émissions, j'ai d'abord une rubrique où il y aura des émissions d'information. Et puis, il y aura des émissions sur le droit. J'ai scindé ça en quatre.
Donc, commencez par là, en fait. Commencez par là. Commencez à identifier les personnes qui sont dans ce domaine de la santé. Parce qu'en fait, si les gens ne connaissent pas votre projet, ils ne peuvent pas vous aider. Et essayez aussi d'avoir comme mentor une personne qui a créé une radio, en fait, qui va vous dire quelles sont les erreurs à ne pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que sinon, si vous êtes toute seule, vous êtes en train de réinventer la roue. Sauf qu'il y a des gens qui ont déjà créé plusieurs radios qui savent comment faire, en fait.
Julia, moi, j'ai l'impression que dans votre parcours, vous avez sûrement, on vous a confié des grosses responsabilités par manque de moyens dans les radios où vous avez travaillé. Et que vous vous dites, mais finalement, moi, avec quelques années, j'ai fait largement aussi bien que les autres qui sont là depuis longtemps, qui respectent pas peut-être certaines règles déontologiques que vous, vous avez à cœur de respecter. Et donc, vous vous dites, pourquoi ne pas... C'est ça, hein, finalement, Julia.
Et
vous faites partie de cette jeunesse qui se dit, mais pourquoi on n'aurait pas d'emblée accès aux manettes dès maintenant, puisqu'en plus, on a l'agilité technologique, et vous ressentez ça un peu comme une injustice.
Vraiment.
C'est possible, mais attention, il ne faut pas confondre les deux, d'accord ? Il faut avoir des compétences derrière, parce que sinon la radio va durer quoi ? 1 an, 2 ans, et elle va s'arrêter si derrière il n'y a pas un plan, s'il n'y a pas une stratégie, s'il n'y a pas un suivi, s'il n'y a pas une rigueur. Et donc pour ça, je vous encourage, même si c'est trouver des partenaires, d'accord ? Même si c'est vous qui allez gérer la radio, mais des partenaires qui ont cette expertise, qui ont ce recul et qui vont pouvoir vous conseiller par rapport à ça. Parce qu'il ne suffit pas juste d'être entrepreneur, il faut réussir son entreprise. Et ça, c'est deux choses différentes.
Julia, j'espère que vous avez pris des notes. En tout cas, surtout ne vous découragez pas. Vous faites partie de ces jeunes talentueux qui ont fait leurs preuves et qui s'estiment encore peu mis en valeur par rapport à tout ce qu'ils savent faire. Néanmoins, écoutez bien les conseils de Farida Akhadiri. Hein.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Et puis, vous nous tenez au courant. Très bonne journée à Kinshasa. Julia, qui veut monter sa radio communautaire, vous continuez de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Mohamed nous appelle de Conakry, en Guinée. Bonjour, Mohamed.
Bonjour, madame.
Mohamed, alors Julia avait 23 ans, vous avez 22 ans. C'est formidable d'avoir des jeunes qui nous téléphonent, qui ont des envies, qui cernent bien les blocages et les problèmes et qui sollicitent vos conseils, Farida. Racontez-nous, Mohamed, qui vous êtes et ce que vous voulez devenir.
Merci pour l'ovation. Je suis Sissé Mohamed, étudiant en sciences politiques, licence 3, concentration en relations internationales. J'ai 22 ans. C'est cette année que je finis mes études.
Oui.
C'est un peu ça.
Ah, mais allez-y, Mohamed, continuez.
Et quelle est votre problématique, alors?
Oui. La problématique que j'ai, moi, je m'intéresse uniquement aux problèmes de stage en Afrique, particulièrement en Guinée, comme je suis d'ailleurs guinéen. Quand nous prenons les stages ici, nous savons tous que le stage prépare l'étudiant ou le diplômé à sa future insertion professionnelle.
Et lui
permet aussi de compléter sa formation par des savoirs et des savoir-faire. Mais quand nous prenons les stages chez nous ici, il y a deux problèmes qui se situent. Il y a un problème qui est antérieur et il y a un deuxième problème qui est postérieur aussi. Le premier problème, c'est au moment de qu'on est en train de chercher un stage et les difficultés rencontrées ici, on peut avoir un bon CV sans avoir un stage.
Oui.
Donc, on nous donne des promesses, on nous fait des promesses sans tenir des absences totales aux demandes de stage.
Ça, c'est ce que vous avez vu autour de vous, vos aînés, vos grands frères?
Oui, j'ai beaucoup de grands frères qui n'ont même pas de stage à plus forte raison des emplois. Pour la petite histoire, moi-même, quand je faisais la deuxième année, l'année passée, j'avais voulu faire un stage dans un cabinet. Et j'avais déposé mon dossier et tout. Bon, ils m'ont fait tourner. Par fini, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. Bon, ce sont ces choses-là qui m'ont découragé. Et je me suis dit maintenant qu'il est mieux maintenant de me concentrer sur... La seule année qui me reste maintenant après.
C'est ça. Alors comment ne pas louper la marche finalement? Parce que c'est vrai que là, vous avez déjà une chance, Mohamed, c'est que vous n'êtes pas en retard sur votre parcours universitaire. Donc bravo. C'est-à-dire que j'imagine que vous n'avez pas redoublé, vous avez toujours bien réussi vos études. Et donc, comment anticiper les blocages et les difficultés pour pas ne vous entendre, pour qu'on ne vous dise pas dans quelques années, finalement, tu n'as toujours pas fait de stage?
Voilà. La question que
allez-y, Mohamed.
Ma question maintenant, c'était de savoir comment je dois faire pour ne pas être confronté aux mêmes difficultés que mes aînés. C'est-à-dire le problème de stage et le problème d'emploi.
Ouais. Vous n'avez que 22 ans, donc il est encore temps, vous n'avez pas échoué. Farida.
Bon, vous êtes déjà sur la bonne dynamique, c'est-à-dire que vous êtes déjà en train d'anticiper, vous vous posez les questions. Après, comme on l'a entendu depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de demandes, pas assez d'offres. Donc c'est vraiment maintenant réfléchir de manière stratégique. Et ça va vous demander aussi de fonctionner différemment peut-être que vos aînés, de tout ce que vous avez l'habitude de voir. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'offres, ça veut dire quoi? Vous devez justement faire encore plus d'efforts pour vous différencier. Donc commencez à identifier les entreprises dans lesquelles vous aimeriez soit faire un stage ou même travailler et posez-vous la question en fait, quel est le petit plus que je peux apporter, mais aussi que les autres candidats n'auront pas? Parce qu'au final, c'est ça, c'est non seulement apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise, mais qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas et qui va être important pour l'entreprise. Et c'est comme ça que vous créez votre avantage concurrentiel. Parce que sinon, en fait, si vous êtes juste une personne lambda avec le même type de CV, avec le même type d'expérience et qui répond aux questions de la même manière, bon, il n'y a rien d'extraordinaire chez vous, en fait.
Comment vous pourriez répondre à cette question-là, Mohamed ?
Bon, je pourrais dire ce qu'elle a dit, c'est vrai. Et je vais me battre aussi pour y arriver.
Ma deuxième question... Alors attendez, juste pour finir. Aujourd'hui, vous recherchez un stage dans quel domaine?
Comme je fais la concentration en relations internationales, ça peut être dans le ministère des Affaires étrangères.
Oui, mais c'est quoi le métier? Au-delà juste de l'endroit, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait? Quel type de stage vous recherchez? Qu'est-ce que vous allez faire au quotidien? Parce que c'est par rapport à ça maintenant qu'on va réfléchir de manière stratégique pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire.
J'ai eu à parler les rêves que j'ai et c'est un peu un jour travail aux Nations Unies.
Non, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Même si vous allez, on a parlé de ça, ministère, Nations Unies, c'est pas ça qui est important, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Qu'est-ce que vous allez faire dans un stage?
Je suis capable d'ajouter un plus le fonctionnement d'une entreprise et mettre mes expériences, ce que j'ai eu à l'université.
Donc c'est là, Mohamed, où vous allez travailler. Comment vous posiez la question tout à l'heure, vous devez réfléchir qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait. Parce que sinon, en fait, vous êtes trop vague. Donc imaginons, je travaille aux Nations Unies, je dis ok, mais quel type de poste vous recherchez? Ce que vous voulez, je peux amener mes compétences. Vous me demandez de faire le travail à votre place.
En admettant déjà, Mohamed, que vous postuliez peut-être pour des ONG locales, parce qu'en général, il faut déjà viser des choses plus accessibles. Vous avez dit que vous n'avez pas encore fait de stage et il n'y a rien de finalement d'anormal à cela vu votre très jeune âge, Mohamed. Mais qu'est-ce qui, dans votre parcours personnel, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en valeur? Est-ce que vous avez travaillé dans des associations d'étudiants? Est-ce que vous avez mis au point des actions de jeunesse, d'étudiants sur le campus? Je ne sais pas.
Oui. J'ai ce projet-là, créer une ONG qui va travailler dans...
Mais c'est du projet. C'est du projet.
Oui, c'est un projet.
Ouais. Alors, vous avez 22 ans et pourtant, vous pouvez déjà réaliser des choses vous-même.
Oui. J'ai déjà ce projet-là et je suis là-dessus.
Oui. Le futur et le passé, c'est pas tout à fait la même chose, Farida. Il faut peut-être qu'on le redise.
Exactement. Et vous savez, tout le monde est plein de bonnes intentions. Mais ce qui va démontrer vos compétences, c'est ce que vous avez réalisé dans le passé.
Donc il faut vraiment fouiller votre passé pour montrer ce que vous avez déjà réalisé. Merci beaucoup Mohamed, je suis désolée, on a pas mal d'appels de jeunes qui voudraient poser des questions à Farida Akhadiri. On a au téléphone Solo qui est à Dakar. Bonjour Solo.
Bonjour Emmanuel Baptiste.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Vous avez déjà de l'expérience. Vous avez 33 ans. Vous êtes diplômé de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. C'est le NTSS de Dakar. Oui. C'est comme ça qu'on dit.
Bonjour.
Oui, Solo, vous nous entendez bien, Solo ?
Oui, je vous entends très bien.
D'accord. Je viens de dire donc quel est votre diplôme. Quel est le problème aujourd'hui que vous vous posez pour Farida ?
Bonjour, je m'appelle Solo Tunkara. Je suis diplômé d'État en travail social à l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés.
Ouais. Allez droit voilà, au but, Solo, s'il vous plaît. Il nous reste très peu de temps. Allez-y.
Voilà, ma question est de savoir comment je vais faire pour créer mon propre école spécialisée dans ma ville d'origine qui est Tambacounda. Mm-hmm. Actuellement, je suis en stage dans une école spécialisée qui fait la prise en charge des enfants handicapés. Mm-hmm. Oui.
Donc, alors, la question, c'est vous souhaitez créer votre propre quoi ?
Oui.
Votre propre centre social, hein. Mais avant cela, c'est ça. Mais avant cela, vous avez quand même un problème de CV, hein. Vous avez posé la question au standard, comment valoriser mon CV avec mes stages ? Oui. Pourquoi vous sentez que vous ne valorisez pas bien votre expérience ?
Parce que j'ai pas encore de boulot, je suis en stage.
Ouais.
J'ai pas fait mal de demandes, mais jusqu'à présent, on m'a pas appelé. Mm-hmm. Je me dis que peut-être j'ai un problème avec mon CV.
D'accord. Alors justement, vous l'avez envoyé, votre CV, il fait 3 pages, enfin 2 pages et demie. Merci en tout cas de l'avoir envoyé, Solo.
Ouais. Oui. Donc justement, première question, vous recherchez quoi comme job ? Parce que typiquement sur votre CV, on ne sait pas du tout en fait. D'accord ? Donc rappelez-vous, les recruteurs n'ont pas beaucoup de temps. Donc il faut que vous soyez clair dans ce que vous recherchez. Si on ne sait pas ce que vous recherchez, on ne peut pas vous rappeler. Donc, quel type d'emploi recherchez-vous, Solo ?
Voilà, je recherche un emploi comme travailleur social dans un centre qui fait la prise en charge des enfants handicapés. Parce que j'ai fait la formation et réinsertion des personnes handicapées.
D'accord.
C'est ma spécialité.
Très bien. Donc, déjà, il faut que ce soit visible et que tout de suite, parce que là, on voit vos expériences professionnelles qui arrivent qu'en deuxième page, les mettre tout de suite, en fait, en première page, en fait. Et de mettre en valeur ce que vous avez fait. D'accord ? Donc, par exemple, vous avez parlé de ce stage de 3 mois demain ensemble de Mbourg. Est-ce que c'est une association ? Est-ce que, justement, c'était avec cette population d'enfants ? Il faut qu'on puisse voir que vous avez déjà travaillé dans ce domaine-là.
Et surtout,
et qu'est-ce
c'est
que
ça.
Vous avez fait ? Parce qu'on voit stage,
ça. C'est ça, et vous ne dites pas ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé en fait. Et ce que vous avez apporté à l'association à laquelle vous avez travailler, parce que si vous avez été en stage, c'est pas seulement pour apprendre de votre côté, c'est pour apporter quelque chose à la structure dans laquelle vous étiez.
D'accord ?
Oui, j'ai apporté à la structure parce que là, j'ai trouvé des stages pour des enfants handicapés parce qu'ils faisaient la réinsertion sociale.
Mais ça, c'est super.
Il faut marquer tout ça. En fait, vous avez du potentiel, mais ça ne se voit pas quand on lit votre CV. Donc, par exemple, vous parlez de votre vie associative, vous avez été président de différentes associations, d'accord ? Oui. Mais dites-en, combien de membres, montrer les réalisations que vous avez faites. D'accord ? Parce qu'on ne va pas juste vous recruter parce que vous avez fait une licence, un master, mais on se demande qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et donc ça n'apparaît pas du tout sur votre CV. Donc déjà, si vous mettez ça, vous réduisez, vous vous focalisez sur l'essentiel, vous le mettez sur une page, vous vous focalisez sur les résultats que vous avez obtenus lors de vos stages, mais aussi lors de vos expériences associatives, vous allez voir que vous allez déjà susciter plus de curiosité par rapport aux recruteurs.
D'accord.
Il faut finalement vraiment chercher à vous vendre, hein, comme si c'était un produit et qu'on se dise « Ah ben oui, Solo, on a envie de le rencontrer, il a fait des trucs vachement intéressants, ça pourrait nous apporter quelque chose à nous dans notre structure, il a de l'expérience ». Merci beaucoup Solo de nous avoir appelé. On avait dit Farida Akadiri qu'on allait garder un petit peu de temps parce que bon d'abord j'aimerais avoir votre sentiment général là sur les CV que vous avez reçus, sur les questions que se posent les jeunes. Il y a beaucoup de questions aussi sur leur parcours personnel, leur façon d'être.
Alors sur les différents candidats qu'on a eu aujourd'hui, ce que j'aimerais souligner d'abord et d'émission en émission, rappelez-vous que votre job, c'est d'aider le recruteur à vous découvrir. Et vous devez être clair. Et beaucoup, en fait, ont du mal à expliquer, à formuler, à verbaliser le type de poste. Ils vont nous dire, oui, je veux travailler à tel endroit, oui, mais ça ne nous dit pas qu'est-ce que tu es capable de faire. Donc, il y a vraiment ce moment d'introspection de bien comprendre quels sont les postes sur lesquels avec le diplôme que j'ai, les compétences que j'ai, sur lesquelles je peux intervenir.
Oui. Et mais ça, pour ça, il faut rencontrer des professionnels.
Ou faites des recherches sur Internet. Intéressez-vous, en fait. Quand on fait tel diplôme, ça amène sur quel type de poste? Allez rechercher des personnes qui ont occupé ces postes. Allez sur LinkedIn. Demandez peut-être, voilà, j'ai vu que vous aviez fait tel poste ou vous êtes sorti de mon université il y a quelques années. Vous êtes ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, en fait? Soyez curieux. Si vous n'êtes pas curieux, ça se sent. Ça se sent dans un CV, ça se sent à un entretien. Et à un moment donné, une entreprise, elle n'a pas beaucoup de temps. Donc, il se dit, bon, next.
Next.
Je sais, c'est dur
voilà
à entendre.
Voilà comment on se fait zapper. Mais... Alors, une dernière question, Farida Kadiri, une problématique qu'on retrouve, c'est vraiment comment se positionner par rapport à son recruteur.
Donc voilà, donc trois conseils. Conseil numéro un, c'est vraiment vous aider à comprendre quelles sont les attentes d'un recruteur. D'accord ? Vous devez, en préparant votre entretien, en préparant votre CV, votre lettre de motivation, vous devez aussi avoir ce jeu de rôle où vous mettez à la place du recruteur. Mais qu'est-ce qu'il recherche ? Un recruteur, il a un problème. Et il se dit, en recrutant, je vais résoudre ce problème. Donc, ça veut dire quoi? Vous devez vous positionner comme étant la solution à ce problème. Mais est-ce que vous comprenez, en fait, quand on recherche un expert qualité, c'est quoi la problématique à laquelle l'entreprise souhaite répondre? Quand on recherche quelqu'un dont on avait quelqu'un qui souhaitait être administratif et financier, quel type de problématique? Et donc, maintenant, vous allez positionner votre CV, votre lettre de motivation en vous disant, est-ce que mon CV répond à cette problématique? Est-ce que j'ai mis en valeur tout ce qui va démontrer que je suis la solution? D'accord? C'est vraiment important. S'il ne vous voit pas comme une solution potentielle, il ne va pas vous appeler. Numéro 2, vous devez démontrer votre potentiel. Donc, on a eu le cas tout à l'heure où on pose la question, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, oui, j'ai le projet. Non, avoir un projet, ça ne veut rien dire. D'accord? Vous devez du coup prendre le recul sur toutes vos expériences, qu'elles soient... au moment de vos études, qu'est-ce que vous avez fait, mais aussi ce que vous faites dans vos activités associatives, quotidiennes. Parfois même, ça peut être des responsabilités que vous avez dans votre famille parce que vous vous êtes retrouvé très jeune à vous occuper de vos 10 frères et sœurs. Mais ça montre quoi? Ça montre aussi vos capacités de leadership, de gestion d'équipe, etc. N'ayez pas peur, mais posez-vous la question, comment je démontre au lieu juste d'être sur je suis travailleur, je suis dynamique, non, on veut des faits.
Vous avez raison, on a des candidats qui sont parvenus à envoyer tous leurs petits frères et sœurs en études supérieures en faisant énormément de soutien scolaire qui ne le disent jamais, exemple. Et ça, c'est très dommage.
Et ça, c'est vraiment
important,
en fait.
Alors que c'est vraiment une victoire.
Mais oui. Mais pourquoi? Parce que ça démontre énormément. C'est pas facile d'accompagner un jeune dans les études scolaires. C'est pas parce que quelqu'un... D'accord? Ça demande aussi... Ça montre votre discipline, votre persévérance, votre détermination. Ça montre aussi votre cœur, votre générosité. Donc, on se dit, ah, mais voilà, donc demain, si on se retrouve avec un stagiaire ou on a un collègue en difficulté, voilà quelqu'un, en tout cas, qui a les capacités pour prendre du temps et le faire. Mais si vous-même, vous ne prenez pas conscience de cette valeur. Et troisième élément et dernier, vous devez rassurer sur vos points faibles. Donc, quand il y a une fiche de poste, c'est difficile d'avoir 100% sur toute la fiche de poste. Donc, il y a peut-être des zones où vous avez des faiblesses. Et donc, dans ce cas-là, montrez en fait comment vous êtes déjà préparé à ça. Montrez que oui, très bien, vous savez que vous ne maîtrisez pas tel domaine, mais vous avez suivi des formations, vous avez regardé un TEDx sur YouTube, que vous êtes en train d'interview, etc. Parce que ça montre votre proactivité, que vous voyez les problèmes, mais vous n'attendez pas qu'ils se solutionnent. Vous êtes proactif.
Et avoir des points faibles quand on a 22, 23, 24
c'est
ans,
normal.
C'est normal et c'est pas un drame.
Mais on va vous recruter plus pour votre savoir-être que votre savoir-faire.
Alors, bien mesurer les attentes du recruteur, démontrer son potentiel, rassurer sur ses points faibles. On retrouve bien sûr tous ces conseils, Farida Kadiri, en réécoutant l'émission 7 milliards de voisins sur RFI.fr, les podcasts, l'appli RFI Pure Radio. Merci, merci beaucoup Farida Kadiri d'être passée chez 7 milliards de voisins. On vous retrouve le mois prochain.
Exactement,
merci
avec d'autres
vous.
Jeunes, merci à vous.
Et bien sûr, vous continuez de nous appeler sur ces questions-là pour passer le mois prochain, 33 1 84 22 71 71. Demain, on parle éducation, on parlera des classements et des palmarès d'universités internationales.